Déplacé.
C'est 20 degrés sur Québec. Environnement Canada nous parle d'un 21 possible aujourd'hui. Alternance de soleil et de nuages. Ce soir, généralement nuageux, minimum de 12 degrés. Demain, mercredi, ce sera généralement nuageux avec des probabilités d'averses en après-midi seulement à 23. Ciel dégagé par la suite, minimum de 10 degrés en soirée. Jeudi, ce sera ensoleillé, maximum de 26. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 27 degrés. Tout un article dans le Journal de Québec et le titre m'a bien fait rire. Puis d'après moi, ça l'a fait rire aussi parce qu'il ne devait pas s'attendre à avoir un titre comme ça sur l'article de Jean-Nicolas Blanchette. Le titre, Pascal, je te le lis. Le jeune génie qui peut mesurer à quel point les athlètes choke. On s'en va rejoindre le jeune génie. Je suis très content de lui jaser. C'est Vincent Huard-Pelletier, qui est prof du département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Salut Vincent.
Bonjour, un gros merci pour l'invitation. Ça fait vraiment longtemps que j'écoute tes shows.
C'est-tu toi qui as choisi le titre de l'article, le jeune génie? Est-ce que tu t'es qualifié comme ça?
Ah non, je me qualifie vraiment plus de jeune. Non. Et vraiment plus de génie non plus.
Plus de génie. Donc, tu l'as déjà été?
Ouais. Oh, non, du tout. Hey, vraiment pas.
J'ai trouvé.
Surtout que quand j'ai vu le mot génie, je me suis dit, ouf, on avait un enterrement de garçon à sa grande allée en fin de semaine. C'était loin d'être un génie.
T'es devenu un scientifique dans les dernières années, puis t'es un chercheur. Et là, tu commences une recherche sur les chokeurs. Les chokeurs qui peuvent pratiquer un sport, que ce soit sur le soccer, que ce soit le hockey, que ce soit le football. Des gens qui sont extrêmement talentueux, puis dans des moments où on demande à ces gens-là d'upgrader, ces gens-là choke tout simplement. Et ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable dans l'article de Jean-Nicolas Blanchette, c'est que tu te qualifies toi-même de choker. Comment tu as eu idée de faire des recherches là-dessus?
Bien, c'est avec nos collaborations avec Hockey Québec. T'sais, moi, je fais partie du laboratoire de recherche sur le hockey à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, on a un mandat avec Hockey Québec d'améliorer le développement des jeunes joueurs et jeunes joueuses. Puis un aspect qui était vraiment important, c'était comment préparer nos joueurs à performer quand c'est le temps. Quand on a eu ce mandat-là, moi, en tant qu'ex-choker, je me suis dit, il y aurait probablement quelque chose à aller approfondir à ce niveau-là. Je me suis lancé, j'ai fait des recherches préliminaires, puis on est allé avec une étude, et finalement, ça nous a apporté l'information qu'on était capable de mesurer le choking chez des athlètes, mais il y a du travail à faire là, quand même à ce sujet-là.
Okay. Et toi, de quelle façon ça se manifestait, ce fameux choking-là? Tu étais dans des moments hyper importants, puis visiblement, tu n'étais pas capable de donner la meilleure performance, mais intérieurement, comment tu le vivais?
Au niveau personnel, moi, tu vois, mon type de chokage, là, si tu veux, c'était d'être trop intellectuel, d'être dans ma tête, de penser à tous les détails qui se passaient sur la patinoire, où placer mes patins, où placer mon bâton, qu'est-ce que mes coéquipiers allaient penser, le monde des estrades, est-ce qu'ils me regardent. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées intérieures et de dialogues intérieurs que j'avais avec moi-même. Puis finalement, quand tu penses à 56 choses, t'es pas dans le feu de l'action, t'es pas dans le flow, puis tu pognes la rondelle, tu la lances dans les estrades, puis ton chiffre est fini. Fait que c'est comme ça pour moi que ça s'est matérialisé. Puis ce qui arrive, c'est que quand un athlète a un épisode de choking, puis que c'est mal pris en charge par l'athlète, par son préparateur mental, ça laisse des cicatrices, des micro-traumas, si vous voulez. Puis ça, la prochaine fois que je me ramasse dans une situation où est-ce que le stress est plus haut, j'ai plus de chances de re-choquer quand ça arrive. Donc, tu sais, pour moi, les prochaines étapes, c'est vraiment de mesurer la susceptibilité à choquer, mais de prendre en charge aussi les athlètes et m'assurer que ça n'arrive plus dans le futur. Là, parce que les athlètes peuvent en sortir grandis, mais ils peuvent aussi en sortir blessés.
Mais en même temps, c'est comme difficile de, prévoir un succès comme une défaite. Ça doit être très complexe de pouvoir analyser la conception d'un cerveau puis de gérer les snaps entre elles dans ces ces victoires et défaites-là. Je trouve que c'est plus que complexe, là, sur quoi vous vous attardez en ce moment.
Oui, oui, puis je vous cacherai pas que j'ai encore des dizaines, pas des dizaines d'années, là, mais j'ai encore au moins une dizaine d'années à faire sur ce sujet-là là, avant d'avoir fait le tour. Surtout dans un sport, tu sais, moi, mon dada, c'est un peu le hockey sur glace, là. C'est vraiment difficile de mesurer s'il y a eu un épisode de choking à la base. Parce que peut-être que c'est juste que le joueur était blessé, peut-être que c'est juste que l'adversaire était meilleur. Des fois, ça peut être de la malchance aussi. Fait que c'est dur de mesurer quand il y en a. C'est dur de mesurer la susceptibilité de vivre ces épisodes-là. Et je vous dirais que ce qui est le plus simple présentement, c'est pratiquement de prévenir avec les athlètes individuellement ces épisodes-là. En préparation mentale, avec un psychologue du sport. Il y a plein de techniques qui existent, c'est juste que c'est beaucoup l'aspect clinique qui ressort. Il y a très peu d'études qui s'intéressent à ça pour l'instant, mais je vais essayer de remédier à ça.
Je pense que tu vas réussir, tu travailles extrêmement fort. Mais quand on regarde, exemple, les Maple Leafs de Toronto, là, qui est une équipe bourrée de talent, quand ils arrivent en série, ben justement, il semble y avoir certains épisodes de choking chez certains joueurs. Pensons à Mitch Marner, qui est cité dans l'article. T'sais, Mitch Marner, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, mais quand on s'attend à ce qu'il démontre des choses majestueuses, ben souvent il choke, puis on dirait que toute la méchanceté des fans s'en vont sur son cas à lui. As-tu développé un outil pour les aider? C'est ce qu'on comprend. Peut-être aider aussi les entraîneurs, parce que les entraîneurs qu'on avait dans les années 80-90 sont pas autant formés que les entraîneurs qu'on a aujourd'hui. C'est pas tous des psychologues sportifs, bien entendu. Mais ce genre d'outils-là que tu peux leur fournir va les aider à aider ces athlètes-là qui connaissent des épisodes de choking, puis en même temps, pour ceux qui font du recrutement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou dans la Ligue nationale de hockey, vont-tu pouvoir utiliser cet outil-là?
Bien, mon but, c'est bien entendu là, de pouvoir exporter ces outils-là à l'externe, là, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec. Là, je commence à collaborer justement avec les Saguenayens là, à ce sujet-là. Mais oui, après ça, l'amener dans la Ligue nationale, je vous dirais que ça dépend vraiment des joueurs. Ça dépend d'un joueur à l'autre. Il y en a que de monter une routine d'avant-match avec la visualisation positive, ça va vraiment les aider. Il y en a d'autres que ça va être d'avoir des dialogues intérieurs plus positifs. Il y en a, tu sais, les solutions sont vraiment à l'échelle individuelle, puis il faut avoir un bon lien de contact avec l'athlète pour s'assurer que on comprend le problème puis qu'on est capable d'y remédier avec les bons outils. Mais c'est pas les outils qui manquent, je vous dirais. Pour l'instant, c'est vraiment de savoir qui est susceptible de vivre ces situations-là qui est vraiment difficile à faire.
Qu'est-ce qui arrive avec notre corps quand on est un choker lors des situations qui demandent des prouesses exceptionnelles? Exemple, on est en finale de la Coupe Stanley, tu es un joueur qui a tout le temps été hyper performant, tu as travaillé extrêmement fort, puis là, c'est une game qui n'y a pas de retour. Là. Si tu perds, tu perds, c'est pas toi qui as la coupe Stanley. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps à ces chokers-là? Ça peut-tu être, bon, c'est la petite voix intérieure qui dit, bon, tu réussiras jamais, c'est-tu physiquement, est-ce qu'il y a de l'engourdissement dans le cerveau? Est-ce qu'ils sont étourdis? Comment ça se passe?
Ah ben là, tu vois, t'en as nommé quand même plusieurs qui font partie de la liste. Et je te dirais que c'est pas juste dans le sport. Hein. Ceux qui ont des métiers au public, des fois les présentations, les conférences vont faire le même type de stress. Les étudiants au secondaire au cégep, quand ils ont à faire des présentations orales, ils vivent aussi à petite échelle. Oui, tu peux avoir du stress qui est plus de nature qui va se refléter plus de façon psychologique. Ce que tu dis toi-même, les discours négatifs, mais tu as aussi le stress somatique, c'est-à-dire avoir des maux de ventre, des problèmes de digestion. Tu l'as nommé, les étourdissements, moi, ça m'arrivait beaucoup quand je faisais du sport de compétition. Sinon aussi, la vision va avoir tendance à se rapetisser. On perd un peu la vision périphérique parce qu'on sent une grosse menace, ça peut être d'avoir les jambes molles, de la sudation. Donc, il y a plusieurs façons que le stress peut venir empêcher l'athlète de performer. Pour l'athlète, ce qui est important, c'est de reconnaître ces signaux-là, d'essayer d'appliquer une stratégie pour les diminuer puis pour les maîtriser. Parce que le stress est incontournable puis il va même aider les performances. C'est bon d'être activé, de sentir une légère menace, mais faut savoir le reconnaître puis après ça, se servir des bons outils.
Est-ce que la plupart des chokers, c'est des gens qui sont excellents dans leur sport, c'est des gens qui sont excellents au travail, c'est des gens qui travaillent plus fort que les autres, qui s'en mettent plus sur les épaules que les autres?
Ben oui, il y a des petits liens avec les traits de personnalité. Là. C'est souvent des gens qui ont tendance à sentir qu'ils n'en font pas assez, des gens qui sont perfectionnistes, des gens qui sont anxieux. Et oui, je vous dirais que ça arrive plus souvent chez les, en anglais on dit les high performers, là, les gens qui ont des, qui performent beaucoup dans leur domaine parce que ben ils se mettent au défi, ils se mettent à l'épreuve. Quelqu'un qui sort jamais de sa zone de confort pourra pas te choquer parce que il veut pas que son niveau de stress augmente. Donc je vous dirais que oui, c'est vraiment associé à, aux gens qui peuvent avoir des profils un peu plus performants, politiciens, avocats, les gens des médias aussi, tout ce qui peut amener un niveau de stress plus élevé.
Puis on calcule ça comment? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même rétention au stress. Je comprends que les professions, on a certaines que c'est plus facile, mais est-ce que nous, on peut s'auto-évaluer pour savoir dans quelle catégorie on niche?
Ben vous pouvez vous évaluer, vous, personnellement, c'est clair. Là. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être très conscient de soi-même, qui, par exemple, si je donne une présentation, je regarde, je me dis, ah, est-ce que ma barbe est bien faite? Est-ce que j'ai un pli dans ma chemise? Si vous êtes dans votre tête et vous arrêtez pas de vous demander qu'est-ce qui se passe puis pourquoi les gens vous regardent, ça, c'est un indice que vous avez plus de chances d'avoir un écroulement de performance. Sinon, si vous sentez justement ces signes physiques-là, là, le petit ventre qui file pas comme d'habitude, la sudation, le tremblement. Oh, là, j'ai un autre red flag, là. J'ai un autre drapeau rouge à regarder. Puis si vous regardez et vous vous dites, j'en ai pas de stratégie quand je suis stressé pour me recentrer, pour me grounder, ben là, c'est un troisième red flag. Si on a les trois, ou même si on en a deux des trois, je vous dirais que on est plus à risque de s'écrouler sous la pression. Fait que là, ça vaut la peine justement d'aller chercher de l'aide là, pour ou au moins se renseigner pour avoir plus d'outils.
Vincent Huard-Pelletier, l'étude que tu as faite sur les chokers, ça a duré combien de temps? Tu as rencontré à peu près combien d'athlètes?
Je vous dirais, cette étude-là, on a suivi des joueurs pendant un peu plus d'un an et demi. On a suivi environ 40 joueurs masculins, 40 joueuses aussi. Des joueurs qui allaient de 15 à 18 ans. On a été en mesure quand même d'identifier une bonne proportion des épisodes qu'on qualifiait de choking, puis on l'a qualifié là, arbitrairement par une baisse de performance d'environ 20% lors d'un match qui était, disons, stressant. Fait que oui, ça nous donne quand même un bel échantillon, sauf que là, moi, dans les prochains mois, dans les prochaines années, bien, je vais aller vraiment plus loin, mesurer des athlètes élites, mais aussi mesurer des façons de réduire le choking puis mesurer ces effets-là dans le temps.
Okay. Puis est-ce qu'il y a des sports qui sont plus faciles pour toi à analyser? Parce que le hockey, c'est un jeu qui est collectif. Là. Donc, tu sais, analyser le choking à travers le hockey, il faut vraiment que tu sois très attentif. Mais je pense au tennis féminin, là, avec la fameuse nouvelle sensation Mboko, ouais, qui était sous pression puis qui réussissait quand même à performer, ou des fois avait des petites failles, mais était capable de revenir. Tu sais, le tennis féminin, quand tu es seul, ou le tennis masculin, quand tu es seul, c'est plus facile à évaluer que dans les jeux collectifs. Là.
C'est beaucoup plus facile à évaluer. Ouais. Tous les sports, oui, individuels, mais les sports aussi qui ont beaucoup d'arrêts. Parce que là, c'est facile après ça de segmenter chacune des actions puis de voir, d'isoler est-ce que l'athlète a sous-performé ou non. Par exemple, un joueur de basketball qui va faire un lancer franc, c'est facile à mesurer. Un joueur de golf, s'il n'y a pas trop d'intempéries, on est capable aussi de le mesurer. Curling, tous les sports de précision, je vous dirais que c'est ceux qui sont les plus évidents. Moi, je suis un grand fan de hockey, donc c'est là où est-ce que je concentre mes efforts. Puis je vous dirais que c'est le sport le plus difficile à cause des contacts, de la vitesse, ouais, puis du jeu en continu. Mais oui, le tennis, je vous dirais que c'est un cas classique, là. Il y a beaucoup, les études qui se sont intéressées au choking, il y en a quelques-unes qui parlaient de tennis parce que justement, c'est individuel, haute pression, puis c'est un sport de précision.
Ouais. La seule chose qui m'achale, c'est que tu vas aider Saguenayen Chicoutimi pour la prochaine saison, puis tu n'aideras pas nos remparts. Ça, c'est...
ouais, ben là, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est un gars de région pareil.
Faut faire ses choix. Hey, ça a été un plaisir de te jaser, Vincent Huard-Pelletier. Puis quand tu seras de passage à Québec, tu viendras nous voir en studio. Ça va nous faire un plaisir de te serrer à la pince. Puis on parlera justement de justement ton travail qui semble être extrêmement intéressant.
Ben, un gros merci pour l'invitation. Puis ça va me faire plaisir d'arrêter.
Salut, bye-bye!
Bye-bye, bonne journée.
Merci, Vincent Huard-Pelletier, qui est prof au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il y a un article très intéressant de Jean-Nicolas Blanchette dans le Journal de Québec sur le travail de ce gars-là. C'est un chercheur. On l'appelle comme le jeune génie qui peut mesurer à quel point les athlètes choke. Puis, il développe des outils suite à cette étude-là pour aider les chokers ou encore les entraîneurs à aider les chokers ou encore les ceux qui font du scout, les recruteurs. Exemple, un recruteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, toutes ces études-là, avec tous les outils nécessaires, peut aider bien du monde aussi. Puis il peut savoir, tu sais, deux joueurs à peu près équivalents, c'est lequel qui choke, c'est lequel qui choke pas. Quand le moment dit, non, regarde, tu comprends pas, ça prend un but là, on est en finale de la Coupe Stanley. Entre ces deux gars, je prends celui-là à droite plutôt que celui-là à gauche. Mais ça vaut une fortune, ces trouvailles.
Sauf que j'ai l'impression que ça va encore plus faire choquer les chokeurs. Puis ça, je trouvais ça super intéressant. Puis le point que je retiens, moi, de ça, là, puis dans son étude qui est étoffée, qui sera étoffée assurément, c'est que ça laisse des traumas.
Ah, sûrement!
Fait que là, plus tu chokes encore plus, mais pourquoi tu chokes? Je suis fasciné par ça.
Puis tu sais, des chokeurs, on en a tous connu. Là. On a fait des sports. Là. Moi, c'était surtout dans le sport, là, des gens qui avaient 100 fois plus de talent que tout le monde. Puis dans des moments où tu t'attendais à ce que ce gars-là te sorte du trouble, il te sortait pas du trouble. Puis ça, ben, ça faisait en sorte que ceux qui étaient les grinders, ceux qui étaient des travaillants, bien souvent, c'est eux autres qui allaient faire la différence dans des gros matchs de hockey parce qu'eux abandonnent jamais puis ils n'ont pas le stress du gars qui est hyper talentueux. Fait que quand ils arrivent devant le filet, font exactement la même chose que d'habitude dans l'espoir 40. Je me souviens, c'est pas ce Maxime Talbot dans la finale de la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh qui a mis deux buts alors que le gars, c'est un gars qui gagnait sa vie avec ses points. Là. Il met deux buts, finale de la Coupe Stanley. Je veux dire... Lui, il n'était pas qualifié de choker. Bref, c'était franchement intéressant. Pascal, c'est déjà tout. Y a-t-il des choses qu'on doit surveiller dans les prochaines heures?
Certainement notre choke et notre santé mentale qui va s'améliorer de plus en plus en ayant juste notre prochain rendez-vous demain. Christian Dubé qui a dénoncé le refus total des médecins de revoir leur mode de rémunération. C'est encore dans l'actualité, il y a une heure environ. Le projet de loi 106 doit être adopté pour procurer un meilleur accès aux soins de santé. C'est ce que dit le ministre et il tape sur le clou. Fin de la grève chez Air Canada, retour à la normale d'ici 7 à 10 jours. C'est sûr que c'est abordé aussi. Et je te dirais, Yannick, ce qu'on va suivre aussi, c'est toute la course au municipal. Il y a des ministres qui prennent la parole, mais assurément que la commission Galland va garnir notre automne et c'est le cabinet Bodardel qui a caché les vrais coûts. Ça, c'est la nouvelle information qui vient de sortir. Donc, vous savez, on a des commentateurs du dossier qui sont amenés à témoigner à la commission Galland et dans les dernières minutes, ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement, l'équipe du ministre François Bodardel, entre juillet 2020 et février 2021, aurait obtenu un portrait assez global du projet SAAQ Click et une rencontre Teams où on aurait été informé du coût du projet qui s'élevait finalement à 682 millions de dollars.
Ah, merci beaucoup. C'est quoi cette toune-là? Je veux le savoir tout de suite au 418-971-1021, 418-971-1021. Je vous la fais entendre. C'est une toune de Deftones et sa tournée nord-américaine 2025 qui s'en vient chez nous au Centre Vidéotron le 7 septembre prochain. Donc, ça s'en vient bientôt. Il y a des invités spéciaux qui vont être là. Fantogram, The Barbarians of California. Vous allez avoir aussi... excusez-moi. C'est une. Les billets sont en vente sur gestev.com et ticketmaster.ca. Et c'est une présentation de Live Nation et de Gestev. Et cette semaine, ben, on vous fait tirer toute la semaine des billets pour Deftones. Donc, identifiez-moi cette chanson-là par texto et c'est vous, peut-être, qui allez remporter cette paire de billets-là. Pascal va faire l'attribution dans les prochaines secondes. 418-971-1021. 418-971-1021. Salut Pascal!
Salut Marceau!
Bye, bye.
Bye à tous!
À 18h tout le monde!